Bonjour, bienvenue dans l'émission Histoire 2, l'émission consacrée à la lecture à voix haute. Nous sommes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une émission consacrée au Chili et plus particulièrement à l'auteur Luis Sepúlveda, auteur chilien très connu qui a écrit de nombreux romans, des nouvelles. Luis Sepúlveda est né en 1949. En plus d'être auteur, c'est un militant politique, mais également pour les causes environnementales et écologiques. Nous allons lire une nouvelle d'un recueil qui s'appelle « Rendez-vous d'amour dans un pays en guerre ». Tout un programme. Ce recueil a été écrit en 1997. On y évoque surtout des rendez-vous manqués. Et donc, comment ne pas évoquer les rendez-vous d'amour manqués? Je vais donc vous lire la nouvelle qui s'intitule « Histoire d'amour sans parole ». C'est par l'intermédiaire de ces trucs de mode que j'ai connu ma belle. N'allez pas penser que je suis un grand amateur de style dans le vent, mais vous savez bien comme on peut parfois être gêné de nager à contre-courant. Et on succombe à l'idée de mettre des pantalons un peu plus larges ou un tout petit peu plus étroits. Mais c'est de ma belle que je veux vous parler, pas de la mode, de ma belle. Si loin maintenant, dans une hécatombe de souvenirs et de calendriers abandonnés. Elle était la plus jeune d'un trio de trois sœurs, toutes muettes de naissance, et qui tenaient un petit commerce dans un quartier populaire de Santiago. Elles avaient aménagé pour leurs activités un coin du salon. Encore que pour être fidèle à mon souvenir, je devrais dire du living, car les Chiliens ont un living. C'est comme cela qu'ils appellent un ensemble constitué de deux fauteuils, d'un canapé et d'une table basse. « Entrez, entrez, asseyez-vous, on va bavarder un peu dans le living !» Une institution quadrupède qui donne un statut indéniable à la maison. Un grand rideau rouge isolait le living de la partie destinée à accueillir le public. Et la première fois que j'ai passé cette limite, j'ai eu l'impression de franchir le seuil d'un autre monde, un univers comprimé au milieu du temps, à l'atmosphère tranquille, peuplée de palmiers nains, de fougères, de lampes avec de grands abat-jours de cretonne grenat, de tables rondes et de chaises qui maintiennent le dos bien droit. En y repensant, le souvenir n'existe qu'en relation avec d'autres souvenirs. Je pourrais dire que c'était une atmosphère proustienne égarée dans un quartier prolétaire. Je ne juge rien ni personne, mais j'irai jusqu'à dire que c'était une atmosphère proustienne sans ennui. Pour gagner leur vie, ma belle et ses sœurs retouchaient des cravates et des chapeaux. Pour une bagatelle, leurs trois paires de mains prodigieuses se mettaient au travail et en un clin d'œil, la cravate voyante d'un tueur des abattoirs se transformait. Elle perdait sa largeur de rame et devenait un mince ruban digne d'une griffe italienne. De plus, hommage de la maison, elle montrait au gros tueur en âge comment faire le nœud prince de Galles et lui expliquait par signe que le nœud en triangle qu'il portait ne se faisait plus. Ça fait ordinaire, pour ne pas dire vulgaire, voyez-vous. D'autres arrivaient avec un chapeau à large bord, type Lucky Luciano. Et en quelques coups de ciseaux adroits, elle lui rendait un tyrolien qu'aurait apprécié le chancelier autrichien. S'entendre avec elle, et en particulier avec ma belle, ne posait aucun problème. Elles ne pouvaient pas parler avec des mots, mais elles écoutaient à la perfection. Il suffisait d'élever un peu la voix, sans en venir au scandale du cri, et de bien articuler les mots. Ce qu'elles ne saisissaient pas bien avec l'audition, elles le comprenaient avec les yeux, et elles répondaient en remuant délicatement les lèvres, en soulignant avec les mains. Dès l'abord, cette atmosphère de silence me plut et je parle sans ironie. Elle me plut et je commençais à y apporter mes cravates l'une après l'autre. Les deux aînés avaient ces mouvements énergiques qui caractérisent les sourds. En revanche, ma belle était très douce. Elle remuait les lèvres et les mains avec la tendresse d'un bon mime, et on pouvait mesurer l'intention de ses paroles à l'éclat de son regard. Elle avait quelque chose qui m'attirait, et ce n'était pas de l'amour, ça, j'en suis plus que sûre. Ce n'était rien non plus de morbide, non. C'était de savoir que ma belle appartenait à ce monde de réalité stable et à cette permanence de temps suspendu et tellement à la portée de mes mains. Ma belle, c'était l'enchantement de traverser le rideau rouge et une fois de l'autre côté de sentir que la vie pouvait avoir un sens, comment dire, un sens à l'abri. C'est ça, je me sentais à l'abri de l'autre côté. Quand j'eus épuisé mon stock de cravates, je me mis à courir les chiffonniers et à acheter les plus larges que je trouvais. J'en achetai même quelques-unes de réellement épouvantables, avec des paysages champêtres, vaches comprises, des monuments nationaux à la mémoire d'illustres vainqueurs de batailles perdues, des stars du sport, des portraits de chanteurs démodés, avant même ma naissance, et que dire des vendeurs ? Ils me regardaient comme un fou. Un don du ciel à qui on pouvait refiler toutes les cochonneries qui se mitaient dans les vitrines. Ma belle ne mit pas longtemps à découvrir mon stratagème. Aucun homme ne pouvait avoir autant de cravates et encore moins ces modèles exclusifs que je proposais aux mains habiles des trois sœurs. Un après-midi, elle me dit que je n'avais pas besoin de me ruiner à acheter d'autres cravates. Si je voulais venir la voir, que je vienne, tout simplement. Elle me le dit avec la bouche, avec les yeux, avec les mains. Ma vie changea considérablement. Je cessai d'aller au billard où je ne réussissais pas trop mal et où je m'étais fait une certaine réputation quand il s'agissait de gagner une douzaine de bières à quelques nouveaux venus. L'après-midi, en sortant du bureau, je faisais un grand détour pour éviter de rencontrer mes copains et j'allais chez les muettes. Nous prenions le thé avec des petits gâteaux et nous nous entendions bien sur de nombreux sujets, comme les ragots sur les voisins, jusqu'au moment où nous allumions la radio. Là, en silence, nous absorbions les tangos aux paroles lentes et sombres d'une autre Mabel, Mabel Fernandez, qui nous donnait sur les ondes de la radio nationale une voix, une mélodie et un souvenir. Et plus tard, en buvant de discrets petits verres de vin vieux, nous suivions avec attention les histoires de la troisième oreille. Les sœurs avaient un poste de radio dont Marconi lui-même n'aurait pas pu rêver. C'était un poste RCA Victor avec un petit chien penché sur le gramophone et auquel Maître Pépé, l'électricien du quartier, avait apporté quelques améliorations qui permettaient de connecter trois paires de haut-parleurs pris sur le vieux poste à galènes. Les câbles des haut-parleurs étaient courts, ce qui fait que les sœurs devaient approcher leur tête du récepteur en adoptant la même attitude attentive que le chien. Et je m'amusais en les voyant se prendre les mains chaque fois que le méchant allait atteindre ses buts pervers et se détendre quand le héros arrivait à toute vitesse pour sauver l'enfant. Des histoires de gangsters dans le Chicago de la Prohibition, du Far West avec Buffalo Bill comme protagoniste. Les versions les plus variées de Roméo et Juliette, les prouesses d'Hercule Poirot et Miss Marple. Sadokan le tigre de Malaisie, sans parler de la Semaine Sainte. Vie, passion et mort de NSJC et de sa bande. Tout passait par le corps des trois sœurs. Je devins vite une sorte de pensionnaire du soir et après une brève discussion, les sœurs acceptèrent que j'apporte au moins le vin pour accompagner le dîner et le dimanche des empanadas. Les mois passaient. Quand je prenais congé après avoir écouté les histoires du sinistre docteur Mortis, ma belle m'accompagnait jusqu'à la porte et nous restions là à regarder passer les rares autos. Je fumais un Liberty et elle prenait le frais. C'est pendant un de ces moments qu'elle m'indiqua qu'elle désirait me parler seule à seule et qu'elle me proposa de nous rencontrer le lendemain à midi à la porte de la lingerie allemande où elle devait aller acheter quelques fournitures. Ce que nous fîmes. Le rendez-vous avait quelque chose de clandestin, et j'avais honte d'être vue par un copain. J'imaginais les commentaires au billard, les blagues que je devrais supporter le jour où j'y retournerai. Et surtout, j'avais peur que ça se termine par des bagarres. Je l'emmenai dans un café loin du centre, nous commandâmes un lait à la vanille et je lui dis que c'était à elle de parler. Elle rapprocha sa chaise et de ses lèvres silencieuses, elle me dit des mots que je comprenais très clairement dans l'éclat de ses yeux. Elle avait beaucoup d'estime pour moi et était heureuse de m'avoir pour amie car nous sommes amis, non ? Elle me dit qu'elle savait qu'elle était une femme laide, oui, enfin, pas aussi laide que certaines, mais elle savait qu'elle était maigre et qu'elle ne savait pas marcher de cette façon qui plaît aux hommes. Elle savait aussi que je la considérais non comme une femme de plus, mais comme une amie. Après quelques secondes d'hésitation, elle ajouta que j'étais le premier ami qu'elle avait. Je lui pris les mains. Je sentis que les regards étonnés des garçons n'avaient plus d'importance pour moi. C'était la première fois qu'elle se trouvait dans la rue avec quelqu'un d'autre que ses sœurs, et cette première fois la faisait se sentir bien, en confiance. C'est ce qu'elle ressentait avec moi, la confiance. Elle le répéta plusieurs fois. Et c'est à cause de cette confiance qu'elle voulait me demander quelque chose, et si je refusais, à cause de cette confiance, notre amitié n'en souffrirait pas. Elle passait sa vie à travailler au magasin, faire des courses, de temps en temps manger une glace, et une fois par mois, aller payer la facture de la compagnie d'électricité. Elle avait 35 ans, et de sa vie entière, elle n'avait fait que ça. Un instant. Tu n'es jamais allée à l'école, par exemple ? Non. Ses parents avaient pensé que c'était suffisamment malheureux d'avoir trois filles muettes à la maison, sans en plus les exhiber aux voisins. Et puis à l'école, on se serait moqué d'elles. Tu sais, comme les enfants sont cruels. Et les établissements spécialisés sont loin et chers. Tu ne m'as toujours pas dit ce que tu veux me demander. Que je la sorte un peu. Pas tous les jours, bien sûr. Je devais avoir d'autres amis, une fiancée. J'étais un garçon bien de sa personne et correct. Pas tous les jours. De temps en temps seulement. Que je l'emmène au cinéma, par exemple. Elle n'y était jamais allée. Et en plaisantant, elle ajouta que peut-être un de ces jours, je l'inviterais à aller au bal. Naturellement, je ne devais pas m'inquiéter pour les dépenses. Elle avait de l'argent et si cela me convenait, nous pourrions partager. Je fus stupéfait. Tu n'es jamais allée au cinéma, au cirque, au théâtre ? Elle fit non de la tête et resta à m'observer. Je lui dis que bien sûr, évidemment, que je pensais depuis longtemps à l'inviter à aller au cinéma et que c'était par timidité que je n'avais pas osé le faire. Sans lui lâcher les mains, je lui dis que cette histoire de femme laide n'avait rien d'évident et je fis même la gaffe de lui dire qu'elle ne paraissait pas ses 35 ans. Elle me regarda tendrement et se pencha et elle m'embrassa sur la joue.
Gracias a la vie. Me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes. El hombre que yo amo, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Ma belle et moi. En peu de temps, nous devînmes les dévoreurs de films en espagnol. Les cinémas de Santiago et Esmeralda nous appartenaient. Nous ne manquions pas un film avec Libertad Lamarque, Mercedes Simone, Hugo del Carril, Amparo Argentina, Luco Cordova ou Sarita Montiel. Les films mexicains lui paraissaient trop lacrymogènes, sauf évidemment Cantiflas. Et après la séance, nous nous bourrions de porc à l'avocat au Bahamondes et ensuite nous montions à Santa Lucia grignoter un cornet de cacahuètes. Ma belle n'avait jamais été une fille triste, mais avec nos sorties, elle devint une fille gaie. Ma belle changeait par des détails à peine perceptibles à première vue. Ma belle changeait à la stupéfaction de ses sœurs aînées. Un jour, malgré mes protestations, je dus l'accompagner chez le coiffeur. Et elle troqua sa raie sur le côté contre une choucroute à la Brendali, comme nous le confessa la coiffeuse. Et elle raccourcit ses jupes de quelques centimètres. Un après-midi, elle cacha sa bouche derrière sa main et ne la retira que lorsqu'elle fut tout près de moi. Elle avait mis du rouge à lèvres, et ses yeux avaient un éclat que je ne leur avais jamais vu. Ma belle changeait, et son changement ne me laissait pas indifférent. C'est peut-être ce qui me donna l'idée de l'inviter à danser. Santiago, dans les années 60. Chaque samedi, on avait le choix entre une vingtaine de fêtes de club ou de collège. Bal au profit des orphelins. Bal en l'honneur de telle ou telle aspirante à l'élection comme reine de beauté. Bal au profit des victimes du dernier tremblement de terre. Bal au profit de nos vaillants pompiers. Bal du financement du voyage d'études à l'étranger, c'est-à-dire Mendoza, de telle ou telle classe de lycée. Bal, bal, bal. Je choisis un endroit où n'allaient jamais les membres de mon ancienne bande, le centre catalan. Une vieille bâtisse de la rue Compagna qui se distinguait par l'observation des bonnes manières et le respect des manuels de savoir-vivre exigés de tous ceux qui le fréquentaient. Ma belle était heureuse. Ses sœurs, qui ne voyaient pas nos sorties d'un bon œil, travaillèrent comme des fées à la confection de sa robe. Elles passèrent une semaine entière penchées sur la singère, pédale que je te pédale, et enfin, ma belle, inoubliable. Ma belle, vêtue de gaze rose, avec des chaussures roses et un petit sac en paillettes à la main. Entre deux danses, on buvait du punch, en évitant les audacieux qui nous proposaient des bouteilles de pisco de contrebande, et nous discutions du choix de notre candidate au titre de reine de la fête. Je ne lui laissais pas un moment, pas un instant de pause, pour ne pas courir le risque qu'un gaffeur vienne l'inviter. Je n'ai jamais été un bon danseur, et pour ma belle, c'était la première fois qu'elle dansait. Pourtant, l'orchestre attaquait un mambo et on y allait. Un paso doble, allons-y. Une cumbia, allez. Un tango, oui, 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 on fait ce qu'on peut. Vers minuit, l'orchestre fit une pause et fut remplacé par les disques d'Al Capone. Et nous étions là, nous aussi, sur la piste avec les Ramblers, les Panchos, Neil Sedaka, Bert Kampfer, Paul Moria, Adamo, enlacés, doucement bercés par la voix châtrée d'Elvis Presley qui pleurait dans la chapelle. Ma belle transpirait sous la gaze et moi je sentais la brillantine me couler dans le cou. Tu es jolie, ma belle, vraiment très jolie. Eus-je le temps de lui dire avant de sentir une main sur mon épaule. Je pâlis. C'était Salgado, un des caïds du billard. « Alors, mon vieux, maintenant je comprends pourquoi tu avais disparu. Tu ne disais rien. Allez, sois poli. Présente-moi ta fiancée. » Je ne sus que répondre. Et Salgado, habile comme toujours, me poussa de côté et prit la main de ma belle. Enchanté. Guillermo Salgado. Mes mots pour les amis. Et vous, ma jolie, comment vous vous appelez ? Mabel me regardait avec de grands yeux. Elle souriait. Qu'est-ce qui vous arrive, ma jolie ? Le chat vous a mangé la langue ou bien ? Ou bien c'est ce rat qui vous accompagne qui l'a mordu ? Mabel cessa de sourire et j'eus du mal à retrouver ma voix. Elle n'a rien, tu t'es présentée, alors maintenant disparais et fiche-nous la paix. Salgado me prit énergiquement par le bras. Je l'avais insulté devant sa partenaire et on ne pouvait pas en rester là. Dis donc, mon vieux, c'est pas des façons de traiter les amis. Si ta minette est muette, c'est son problème, y a pas de quoi s'énerver. Je lui fis éclater le nez et ce fut une grave erreur. Salgado était beaucoup plus fort et plus corpulent que moi. Surpris moins par le coup que par le sang qui coulait en abondance et tachait son costume, il se releva et au milieu des cris me lança une droite que je ne pus esquiver et qui m'arriva dans l'œil. On nous expulsa du bal en faisant bien attention que je sorte d'abord avec ma belle pendant qu'on s'occupait de contenir l'hémorragie de Salgado. De douloureux éclairs de lumière traversaient mon œil fermé et je ne voyais rien non plus de l'autre, noyé de larmes de rage et de honte. Dans la rue, j'essayais de m'excuser et ma belle approchait son doigt de mes lèvres pour m'indiquer que je ne devais pas parler. Elle serrait mon bras avec force, me caressait la tête et je ne sais pas comment elle s'y prit, mais pendant que nous attendions un taxi, elle entra dans un café et revint avec un petit sac de glaçons. Dans le taxi, elle tenait ma tête sur ses genoux et le sac à glace sur mon œil fermé. Je me sentais bizarre, j'étais un pro-chevalier, j'étais un membre de la table ronde, compagnon du roi Arthur. En définitive, je me sentais un macho et je regrettais de ne pas avoir suffisamment d'argent pour pouvoir dire au taxi « roulez, roulez » et ne vous arrêter que lorsque je vous le dirai. « Tu me pardonnes ? Chut !» La robe de ma belle était mince, je sentais la chaleur de son corps. « Tu me pardonnes ? Chut !» Son corps était tiède, elle avait ses mains dans mes cheveux, je sentais ses seins durs contre mon visage. « Tu me pardonnes ? Chut !» Je levai le bras, passai ma main sur son cou et attirai sa tête vers moi. D'abord, ma belle resta avec sa bouche contre ma bouche, surprise, sans réaction. Mais quand elle sentit entre ses lèvres ma langue contre ses dents, elle ferma les yeux et nous nous mîmes à chercher les coins les plus intimes de nos bouches. Nous nous embrassâmes longuement. Et je ne sais pas pendant combien de temps. Ce que je sais, c'est que nous fûmes interrompus par le toussotement discret du chauffeur. Quand je regardais la rue, le monde me parut vide et dépourvu de sens. Nous étions arrêtés à un feu rouge dans un endroit de la ville où nous n'étions jamais allés. « Laissez-nous ici, ça fait combien ?» Nous marchâmes enlacés, sans échanger un seul signe de notre code secret. Tout ce que nous faisions, c'était de nous arrêter de temps en temps pour nous embrasser jusqu'à sentir qu'il n'était plus nécessaire de respirer. Tout alla très vite. L'hôtel, l'éclairage à la hauteur des chaussures, le visage invisible du réceptionniste, les pieds de la femme de chambre qui nous donna des serviettes, le grand lit, le miroir sur le mur, la musique absurde qui nous parvenait par des orifices secrets, le téléphone inutile sur la table de nuit, les boîtes d'allumettes au nom de l'hôtel, la robe de gaz flottant sur une chaise, ma belle, dans la pénombre, ses petits seins, son eau de Cologne anglaise, son gémissement étouffé par l'oreiller. Puis plus tard, l'œil qui fait de nouveau mal, aiguillonné par la clarté de l'aube, le réveil dans un lit inconnu, les mains qui cherchent ma belle, qui n'est plus là. Dans le miroir, je vis que mon œil était une énorme tache bleue qui couvrait presque le tiers de mon visage. Par chance, il était tôt et le dimanche, il y a peu de gens dans les rues. Je retournai chez moi en taxi pensant qu'avec l'aide d'un morceau de viande, l'œil dégonflerait et que l'après-midi, je pourrais aller à la rencontre de mon monde caché derrière le rideau rouge. Mais ça ne dégonflait pas. Au contraire, une substance laiteuse se mit à suppurer. Je restai toute la journée au lit, dans le noir, et le lendemain, je me déclarai malade au bureau. Grâce à un ami médecin qui diagnostiqua une gastro-entérite fulminante, j'obtins 3 jours de congé et je passai au milieu des compresses d'eau de moutarde à fumer et à penser à ma belle. Le troisième jour, l'œil retourna à son état normal et l'après-midi, avec des lunettes de soleil, je partis chez les muettes. L'aînée des sœurs m'accueillit et comme d'habitude, elle m'invita à passer derrière le rideau. « Et ma belle ?» L'aînée m'offrit une tasse de thé en m'indiquant que c'était du bon, du rentan pur et des petits gâteaux. « Et ma belle ?» Elle me répondit par signe qu'elle n'était pas là. Elle était en voyage, dans le sud, chez des parents. Elle avait eu un brusque problème de bronche et l'air de la campagne est si bon dans ces cas-là. Ce fut un très long après-midi. Les deux sœurs pendues à leur haut-parleur, les tangos, le reporter Esso, le stupide chien de la RCA Victor penché sans me regarder, la version radiophonique de l'assassinat de la rue Morgue, la soupe d'abatti, l'omelette au céleri, le riz, la crème brûlée, le vin vieux et ma belle. Non, nous n'avons pas son adresse. Ce sont des parents éloignés. Il n'y a que ma belle qui a des contacts avec eux. Non, elle n'a pas dit quand elle reviendrait. Le second, le troisième, le quatrième jour, les mêmes réponses, dessinées vaguement. Mais dans quelle ville? On ne sait pas. Il n'y a que ma belle qui sache. Elle n'a rien dit? Non, elle n'a pas donné la date de son retour. Et s'il lui arrive quelque chose? Qu'est-ce qui peut lui arriver? Vous ne savez pas au moins dans quelle province? Non, on vous a déjà dit. Je cessais d'aller chez les muettes. Je me contentais de passer devant la boutique et, à travers des clients qui entraient ou sortaient avec leurs cravates et leurs chapeaux, je guettais la présence de ma belle. Plus tard, je n'allais même plus jusqu'à la porte de la boutique. J'utilisais des enfants qui, pour quelques pièces, me tenaient informés. Rien, pas de trace de ma belle, rien, aucune nouvelle de ma belle. Finalement, nos enfants sont partis. On se résigne à perdre le nirvana. Le pire châtiment n'est pas de se rendre sans lutter. Le pire châtiment, c'est de se rendre sans avoir eu la possibilité de lutter. C'est comme de jeter l'éponge par forfait de l'adversaire. Et même si l'arbitre lève le bras du boxeur vainqueur au milieu des bâillements, la sensation de déroute dure jusqu'à devenir résignation. Je retournais au billard, au tapis, à la douzaine de bières gagnées sur le premier imprudent. Salgado m'attendait et nous avons rejoué la pièce du nez éclaté et de l'œil fermé deux, trois fois, jusqu'à nous serrer la main en déclarant que l'amitié devait être comme ça, bagarreuse. Ma belle. Avec le temps, j'ai appris à oublier ces mots yeux, la dimension de ces adjectifs lèvres, la netteté de ces mains substantifs. Avec le temps. Le temps est passé sur mes pas et je me suis empli d'oublis qui m'ont oublié. La ville dont je viens de parler n'existe plus, ni les rues, ni la boutique des muettes, ni les cravates larges comme des rames, ni les palmiers nains, ni l'atmosphère proustienne sans décadence. Tout a disparu. La musique, la salle de bal, le chien penché vers le gramophone, tout est perdu, je l'ai perdu. Il y a longtemps que mon œil n'est plus gonflé, mais il me reste un bleu à l'âme et quelque chose manque. Ma belle, quelque chose manque. Et c'est pourquoi je marche dans la vie comme un insecte boiteux, un lézard sans queue ou quelque chose du même genre. Et voilà, ainsi s'achève l'émission Histoire 2 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Nous avons entendu la magnifique chanson Gracias a la Vida, interprétée par Mercedes Sosa. Merci beaucoup à Mireille pour l'enregistrement, à Corsine pour la composition de l'indicatif. On se retrouve dans un mois. Bye bye.